On va prier, Seigneur. Seigneur, je te remercie dans le nom de Jésus pour le temps qu'on a encore ce matin pour étudier ta parole. Parce que nous croyons, Seigneur, que la Bible, ta parole, c'est la vérité. C'est de là que sort toute la connaissance, la révélation du message que tu nous as révélé à travers tes prophètes, à travers Jésus. Puis aujourd'hui, Seigneur, on va apprendre à connaître ta pensée. On veut pas se fier aux religions, on veut se fier à ce qui est écrit dans ta parole, parce qu'on le sait, Seigneur, qu'en toi est la vie éternelle. On remène cette réunion entre tes mains dans le nom de Jésus.
Amen.
Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on continue l'étude. C'est une étude en 10 parties. Puis aujourd'hui, on est rendu à la troisième partie. Le chrétien et son salut. Dans l'étude qu'on va voir aujourd'hui, on va voir toutes les bases bibliques, les versets qu'on a besoin de connaître, qui nous expliquent le salut. Quelle était la position des hommes, ou de notre position qu'on était avant d'être sauvés, qu'est-ce qu'il en était des conséquences à cause qu'on n'était pas sauvés, comment est-ce qu'on peut devenir sauvé, puis après, quels sont les résultats après avoir été sauvés. Il y a beaucoup de versets à les lire. Puis on a essayé de pas trop élaborer ces choses. Mais si jamais vous avez une question quand on étudie un verset, levez votre main, posez votre question. Si on ne l'a pas dit souvent, là, mais il y a une vérité là-dedans, que si tu poses une question, tu risques de passer pour un niaiseux pendant 30 secondes. Puis si tu ne poses pas ta question, tu vas rester niaiseux toute ta vie. Fait que l'important, c'est de risquer de la poser à la question. Ça, c'est une joke, là. C'était pas une vérité biblique. Mais l'idée est, gênez-vous pas de poser des questions. De toute façon, je pense pas que personne ici va penser que vous êtes niaiseux. Moi, je crois que quand on pose une question, il y en a d'autres qui ont peut-être la même question dans la tête, c'est parce qu'ils osent pas la demander. Gênez-vous pas, on est là pour étudier. Normalement, on aurait dû prendre ça par des mardis ou des mercredis, puis prendre le temps de passer à travers, mais là, il faut la passer dans la réunion aujourd'hui. Parce qu'on se donne cours de préparation au baptême, puis les baptêmes sont dans 2 semaines, puis il faut finir cette étude-là, puis il y en a une autre qui est importante, qu'on va voir la semaine prochaine, sur le baptême, mais les ordonnances que le Seigneur nous a données. Aujourd'hui, on va comprendre quelle était notre position devant Dieu avant d'être sauvés. Ceux qui n'ont pas de Bible, asseyez-vous à côté de quelqu'un qui a une Bible, puis aidez-vous à trouver les versets. Le premier verset qu'on va aller lire, c'est dans Romains 5, 18. Il n'y a pas gros d'explication d'écrit sur votre feuille. Comme vous pouvez le marquer, il y a juste les versets. Vous écrivez votre réponse. Moi, je vous encourage, si vous voulez réapprofondir, reprenez l'enregistrement, réécoutez, reméditez tout ça. Parce que quand vous voulez évangéliser quelqu'un, quand vous voulez parler de la Bible à quelqu'un, c'est ces versets-là qui sont les versets clés pour expliquer les réponses, pour amener quelqu'un à comprendre qu'il est pécheur, est perdu, a besoin d'être sauvé, puis par quelle manière qu'on peut être sauvé. Romains 5, 18 nous dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Pour vous mettre dans le contexte, ça nous parle de l'offense d'Adam. Dans le contexte, ça nous explique que par une seule offense, l'offense qu'Adam et Ève ont faite dans le jardin, à l'origine, les humains étaient pour vivre, toute la gang était pour vivre dans le jardin d'Éden, dans le paradis. Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont pris du fruit défendu. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Ils sont morts spirituellement, ils ont été séparés d'avec Dieu, ils ont été comme condamnés de la part de Dieu, ils ont été privés, pas juste eux et toute leur descendance ont été privés de manger de l'arbre de vie, ont été privés de l'innocence. Tout le monde sur la terre qui sont nés après Adam et Ève sont nés pécheurs. Sont nés séparés de Dieu, sont nés sans la possibilité de manger du fruit qui donne la vie éternelle. On était tous rendus coupables à cause d'Adam et Ève. Quand l'Église catholique parle d'un péché originel, c'est le péché de l'origine, le péché du commencement, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'il y a eu le premier péché à l'origine le péché de désobéir à Dieu qu'Adam et Ève ont fait, ça a entraîné une conséquence que l'humanité au complet sont nés condamnés. C'est ça que ça nous dit, on relit ce verset-là. « Ainsi donc, comme par une seule offense, » là, c'est dans, ça parle d'Adam, « la condamnation a atteint tous les hommes. » Qu'est-ce qu'on écrit sur notre feuille? Quelle était notre position devant Dieu avant d'être sauvé? On était condamné. À cause de qui? À cause du péché d'Adam. Écrivez ça sur votre feuille. Nous étions condamnés à cause du péché d'Adam. On va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 versets-là qu'on voit, on va voir, qui nous expliquent qu'est-ce qu'on était avant d'être sauvés. Mais il y en a beaucoup plus que ça dans la Bible. C'est juste comme un résumé. Les versets, quelques versets, on parle de certains sujets, mais on ne verra pas tous. Colossiens 1, 21. Qu'est-ce qu'on apprend sur notre position devant Dieu avant d'être sauvés? Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Oups! Là, on voit là, que c'est par nos péchés, par nos mauvaises œuvres. On ne parle pas juste du péché d'Adam. Dans quelle position qu'on était avant d'être sauvés?
Étrangers
et ennemis. La Bible est en train de nous dire... Nous autres, autrefois, avant d'être sauvés, on était des étrangers puis des ennemis de Dieu. À cause de quoi? À cause de nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui est dans une position devant Dieu à cause de ses péchés, de ses mauvaises pensées et ses mauvaises actions dans sa vie, il se trouve à être étranger et ennemi de Dieu. C'est sûr que là, on va voir des révélations choc, là. Ça peut peut-être nous ébranler. Je sais que souvent, on entend parler, « Ben voyons donc, tout le monde est bon sur la terre. On est tous les enfants de Dieu. On est tous sauvés. On s'en va tous dans l'éternel. » Aujourd'hui, je vous montre des versets qui proviennent de la parole de Dieu. Si on sait qu'un ciel, c'est dans la Bible. Si on sait qu'un enfer, c'est dans la Bible. Si on sait que Jésus est venu pour nous sauver, c'est dans la Bible. Si on sait la position de l'homme sans être sauvé, c'est dans la Bible. Si on sait notre position à cause de nos péchés et de nos mauvaises actions, c'est dans la Bible. Si la Bible nous dit qu'on était, à cause de nos péchés et de nos mauvaises œuvres, on était étrangers et ennemis de Dieu. Ça ne dit pas nécessairement que Dieu voulait être notre ennemi. C'est nous autres qui agissons en ennemi face à Dieu à cause de nos mauvaises pensées et nos mauvaises œuvres. On est en train de suivre un chemin qui est le chemin ennemi de Dieu. Quelle est notre position? Étranger et ennemi avant d'être sauvé. De Dieu, bien entendu. Jean 8, 44. Qu'est-ce que Jésus a dit à des gens qui ne croyaient pas? Des gens non sauvés. Jésus a dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Oups! Dans ce passage-là, Jésus est en train de parler à des gens qui ne sont pas sauvés, des gens qui ne croyaient pas. Il leur a dit, vous avez pour père le diable, puis vous êtes en train d'accomplir les désirs de votre père. Une personne qui n'est pas sauvée, c'est pas Dieu son père, c'est le diable. Moi, avant d'être sauvé, c'était qui mon père? C'était le diable. Puis je faisais quoi dans ma vie? J'accomplissais les désirs de mon père, des désirs méchants, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises actions. Toute ma vie, j'étais dans le péché, j'obéissais à mon Père. Quelle était notre position avant d'être sauvés? Nous étions des enfants du diable. C'est des révélations choc, parce que je sais que souvent on pense qu'on est bien fin, bien beau, bien gentil, puis on se pense bien correct. Puis en fin de compte, la Bible nous démontre une position qui est complètement le contraire de ce qu'on pense. Il n'y a pas une seule personne, mais on va le voir un peu plus loin. 1 Jean 5, 19. Qu'est-ce qu'on apprend encore de notre position avant d'être sauvé? Y a-t-il quelqu'un qui avait une question? Là, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Moi, je suis là pour les répondre. Oui? Des mauvaises... Une œuvre, c'est nos actions. Des mauvaises actions. Qui que dans réunion ici, là, je pose la question, qui a jamais fait une mauvaise action dans sa vie? Y a-t-il quelqu'un ici qui a jamais fait une mauvaise action? La minute qu'on est conscient, oui, il n'en a pas encore fait, lui, personnellement.
Pourquoi?
Lui, le bébé. Parce qu'il n'est pas encore conscient d'avoir compris c'est quoi qui est le bien et le mal, puis de pratiquer le mal. Mais est-ce qu'elle est exemptée d'une condamnation?
Non.
Pourquoi? Parce qu'elle est dans une séparation d'avec Dieu à cause de qui? À cause d'Adam. La condamnation a atteint tout le monde. Tout le monde est condamné à cause d'Adam, mais en plus de ça, à cause de nos œuvres, on le démontre encore plus qu'on est décondamné. Qu'est-ce que ça nous dit dans 1 Jean 5, 19? Puis vous allez comprendre la grâce après ça que Dieu nous a faite. 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu, là c'est des chrétiens qui sont en train de parler, nous savons que c'est des gens qui sont déjà sauvés. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Fait qu'il n'y a pas trois ou quatre positions sur la terre. Il y a deux positions. Soit que tu es enfant de Dieu, ou soit tu es enfant du diable. Soit tu es sauvé, ou soit tu es perdu. À la base, en partant, tout le monde sont perdus. Pas juste à cause de ce qu'on a fait, à cause de ce qu'on a hérité d'Adam et Ève. Sauf que on n'est pas obligé de rester là, puis on va le voir par la suite. Mais aujourd'hui, notre position, la Bible a dit, le monde en entier est sous la puissance du diable. C'est ça que ça nous dit dans ce texte-là. Il y a deux royaumes, il y a le royaume du diable, puis il y a le royaume de Dieu. Puis en partant, par défaut, tu viens au monde, tu le mauvais bord. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la parole de Dieu. Puis ça, écrivez ça, nous étions sous la puissance du malin. Si vous voulez parler à quelqu'un pour l'évangéliser, il faut que la personne comprenne qu'elle est pécheur. Si elle dit qu'elle n'est pas pécheur, qu'elle est sans péché, elle n'ira pas chercher le pardon en Jésus, parce qu'elle ne réalise pas qu'elle a notre besoin. Pour que les gens réalisent qu'ils sont pécheurs, ils ont besoin d'entendre ces versets-là qui disent que nous sommes pécheurs. Une fois qu'on réalise qu'on est pécheur, hey, j'ai besoin d'être pardonné, il faut que je sois sauvé. C'est là qu'ils vont, croire que Jésus est mort sur la croix pour les pardonner. Isaïe 64, 6. Qu'est-ce qu'on apprend à cause de notre position avant d'être sauvé? Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Isaïe 64, 6. Mais là, ça peut être 65 au verset 5 ou le verset 7, ça dépend de la Bible. Isaïe 64, 6. Ah, ça dit, nous sommes tous comme des impurs et notre justice est comme un vêtement. D'une Bible à l'autre, des fois, il y a un verset qui c'est l'autre verset suivant, ça va être 5.
Ça me prend un crayon, je l'écris, je vais le corriger.
Il y en a un.
On va reprendre. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Ça, ce verset-là, il est bon pour dire qu'il n'y a pas personne qui a mené une vie juste et qui peut gagner son ciel. Parce qu'il y en a qui pensent ça, qui sont justes. Moi, je suis correct, je suis juste. J'ai fait une vie bien exemplaire. J'ai élevé 18 enfants. J'ai été à l'église à tous les dimanches. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Là, les gens, ils essayent d'établir qu'ils sont justes en expliquant toutes les bonnes actions qu'ils ont faites. Ça ne marche pas de même devant Dieu. Dieu nous dit, on est tous comme des impurs. Il n'y a pas un seul juste que Romains 3 nous dit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Tout le monde, la justice devant Dieu est
zéro.
Les Juifs ont eu la loi de Moïse. Ça disait dans la loi, si tu prends l'homme qui pratiquera ces choses, la mettra en pratique, vivra par elle. Il pouvait atteindre une justice en pratiquant une vie exemplaire. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas personne qui y est arrivé, sauf une seule personne. C'est Jésus. C'est le seul qui était sans péché. L'ensemble de l'humanité au complet n'a pas été capable de s'auto-justifier, d'arriver à vivre une vie juste. Ça dit, on est tous des impurs, puis toute notre justice est comme un vêtement souillé. On est tous revêtus de nos mauvaises actions. On est tous salis par nos mauvaises actions. Qu'est-ce que ça nous donne comme conséquence? On va le voir dans les autres versets plus tard. Matthieu 15, 18. Avez-vous écrit votre réponse? Nous sommes tous impurs. Notre justice est un vêtement souillé. Matthieu 15, 18. Qu'est-ce qu'on apprend en cause de notre position devant Dieu? Comment Dieu voit chaque être humain sur la terre? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Qu'est-ce que j'apprends dans ce verset-là de ma position devant Dieu? Mais chaque fois qu'une personne sur la terre a eu une mauvaise pensée et qu'il l'a dit dans sa bouche, elle est devenue souillée. Y a-t-il une personne sur la terre qui a jamais dit une mauvaise parole qui provenait de sa pensée et qui l'a dit? Tout le monde a passé par là. À cause de ça, on est tous souillés par ce qui sort de notre bouche. Puis tous les jours, des fois, on en dit des choses pas belles, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Fait que notre position devant Dieu, on est souillé par tout ce qui sort de notre bouche. Isaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Quelle est notre position devant Dieu avant d'être sauvés? Nous étions des errants. On est comme des brebis, on est comme un troupeau de moutons. Mais normalement, un troupeau de moutons, il devrait tout être resté ensemble puis suivre le berger. Mais quand il dit dans ce verset-là, on était tous comme des brebis, mais on était tous errants, chacun suivait sa propre voie. Au lieu d'écouter le chemin du berger, qui est Dieu, on a tous suivi des chemins qui étaient notre propre chemin qu'on avait décidé de faire. À cause de ça, on était devenus des errants. Il y en avait d'autres versets que j'aurais pas amené sur notre état de notre position devant Dieu avant d'être sauvés. Mais ceux-là, vous avez déjà une bonne base pour comprendre qu'on est tous perdus en partant. On va voir des versets. Voici quelques versets quelques conséquences de cet état de péché, à cause qu'on était errants, souillés, pécheurs, enfants du diable, on était sous la puissance du malin, on était ennemis de Dieu étranger. À cause de notre position, il y avait des conséquences. Dieu avait, comme dit dans sa parole, des choses. Si les gens sont comme ça, il va arriver telle chose. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans la parole de Dieu sur notre position, le résultat des conséquences de quelqu'un qui n'est pas sauvé, qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence? Éphésiens 2:12. Ça dit que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Wow! Dans ce verset-là, il y en a plusieurs conséquences qu'on trouve. Quand quelqu'un est perdu, quand quelqu'un n'est pas sauvé, ça dit qu'il est sans Jésus, sans Christ. Écrivez ça. On est sans Christ. On est privé du droit de cité en Israël. On est privé des récompenses d'Israël. On est étranger aux alliances de la promesse. On est sans espérance. Puis on est sans Dieu dans le monde. C'est-à-dire qu'une personne qui est perdue est sans Dieu, sans espérance, sans Jésus, est privée du droit d'être un enfant de Dieu qui obtient les récompenses promis en Israël, puis sont étrangers des promesses, puis de l'alliance. Quelles sont les autres conséquences de l'état de péché, l'état d'être séparé d'avec Dieu, de l'état d'être un non-sauvé? Romains 3:23. Romains 3:23 nous dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Savez-vous que chaque fois que Dieu il s'est manifesté puissamment sur la terre, quand Moïse est allé voir le Pharaon, puis qu'il a dit, mais il va t'arriver telle affaire. Fait que là, il y a les 10 plaies d'Égypte qui est arrivé. Dieu manifesta sa gloire. Chaque fois que Dieu fait des miracles, chaque fois que Dieu manifeste sa puissance, chaque fois que Dieu exauce les prières, c'est la gloire de Dieu. Fait que sur la terre, déjà, les gens pourraient vivre des moments glorieux, que Dieu pourrait se révéler à eux, Dieu pourrait faire des choses extraordinaires. Mais si on est dans notre péché, si on demeure dans nos péchés, on reste dans ce chemin-là, on est privé de la gloire de Dieu. Résultat, quand tu n'es pas sauvé, si tu ne passes pas pour aller chercher le salut, tu vas être privé de plein de choses que Dieu aurait voulu faire dans ta vie, sur la terre, et en plus de la gloire à venir qui nous attend, après la mort, la Bible parle de la vie éternelle, puis des récompenses éternelles. On va voir d'autres versets qui en parlent, que la gloire de Dieu nous attend pour ceux qui sont sauvés, mais si tu demeures en état non sauvé, c'est d'être privé de sa gloire pour l'éternité. Romains 6:23. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelle est la conséquence d'un état de péché si une personne perce? Savez-vous que ça veut dire le mot mort? Séparation. Le mot mort, là, dans le sens du mot, ça veut dire séparé. Fait quand quelqu'un meurt physiquement, il est séparé de son corps. Son âme sort de lui, il est séparé. Mais quand tu es mort spirituellement, c'est que tu es séparé d'avec Dieu. Tu n'as pas ce contact-là, tu n'as pas ce communion-là. Fait qu'une personne qui demeure dans un état de rébellion, puis de péché, puis de désobéissance, puis qui veut suivre le chemin qui est contraire au chemin de Dieu, il est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi, mort? T'es séparé. T'es pas en contact avec Dieu. Même si tu penses que t'es en contact avec Dieu, tu l'es pas. On est comme mort. Le salaire de ceux qui vivent dans le péché, c'est la mort. La séparation d'avec Dieu, puis elle va demeurer pas juste dans le temps présent. On va voir des versets qui nous parlent, c'est jusque dans le temps à venir. Jean 3, 36. Quelles sont encore les conséquences de ceux qui sont perdus sans Jésus? Celui qui croit au Fils, en Jésus, a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils, il verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il y a deux conséquences ici dans ce verset-là. Quelles sont les deux conséquences dans ce verset-là de ceux qui sont dans un état de péché et qui ne veulent pas être sauvés? Ils ne verront pas la vie. Puis la colère de Dieu demeure sur la personne. Dieu est en colère présentement de voir que les gens se rebellent contre lui. Il est en colère de voir que les gens persistent dans le péché, dans la désobéissance. Il est en colère de voir que les gens ne vont pas à Jésus pour être pardonnés. Si une personne ne veut pas être sauvée, puis qu'elle ne devient pas sauvée, la colère de Dieu demeure sur cette personne. Puis un jour, après la résurrection, la Bible parle d'un jugement pour ceux qui sont qui n'ont pas fait la paix avec Dieu avant de mourir, il y a un jugement qui va les atteindre. Ceux qui sont dans leur voie de pas croire en Jésus pour être sauvés, ils ne verront pas la vie. La Bible parle d'un état d'être séparé d'avec Dieu pour l'éternité. La Bible parle d'un lieu où ce que c'est des ténèbres qui vont être éternels, un lieu de noirceur éternel, où ce que ceux qui meurent séparés d'avec Dieu à cause de leur péché, ils ne pourront pas rentrer dans la présence du Dieu de lumière dans la vie éternelle. Parce qu'ils sont séparés, ils sont morts dans leur péché. Le péché, c'est en cause sur leur corps, puis ils n'ont pas été chercher le pardon pour être ça soit effacé. Fait qu'ils meurent dans leur péché, ils meurent dans une position qu'ils ne pourront pas entrer dans la présence du Dieu Saint, dans la lumière, où ce qui va être la vie éternelle. Puis ils vont aller être jetés dans un autre endroit, qui est l'endroit de ténèbres, de noirceur éternelle. Ils ne verront pas la vie. Ils ne pourront pas la voir parce qu'ils vont être dans les ténèbres du dehors, où ce qu'il y a des pleurs et des grincements dedans. La Bible est claire. Il y a vraiment deux endroits après la mort. Soit tu t'en vas dans la présence de Dieu parce que tu as été pardonné, pas parce que tu étais plus fin, parce qu'on est tous coupables, mais tu as été pardonné. Tu as été chercher le cadeau que Dieu t'offre. Puis on va le voir dans les autres versets. Ceux qui sont pardonnés vont entrer dans la présence de Dieu, vont voir la vie éternelle, puis vont être dedans. Ceux qui meurent dans leur péché, on va le voir dans un des versets qu'il dit, ceux qui meurent dans leur péché, ils vont rester dans cet état-là séparé, puis ils ne pourront pas aller dans la présence du Dieu Saint. Puis c'est justement ce qu'on voit dans Jean 8, 24, le verset suivant. Jésus est en train de le dire, exactement ce que je viens de vous dire. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Puis si on y est allé, les autres versets un peu avant et un peu après, ça dit, et vous ne pourrez pas venir où ce que je vais, parce que vous mourrez dans vos péchés. Si tu meurs dans tes péchés, tu ne peux plus rentrer dans la présence de Dieu parce que tes péchés sont encore là. Ça t'empêche d'entrer dans la présence du Dieu Saint. Mais c'est un verset qui nous dit ça, que si tu ne crois pas en Jésus, tu vas mourir dans tes péchés. Écrivez ça. Jean 8, 24, si vous ne croyez pas en Jésus, on va mourir dans nos péchés. Comment ça? Puis ça, c'est bon pour aller évangéliser. C'est les versets. Tu peux l'appliquer, ce feuille-là, la mettre dans ta Bible. Parce qu'on va expliquer la nouvelle naissance aussi dans ça. Matthieu 7, 13. Quelle est la position de quelqu'un qui ne marche pas dans le chemin d'être sauvé? Entrer par la porte étroite, ça c'est un appel que Dieu nous fait, d'entrer dans la porte qui est étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Puis il y en a beaucoup qui rentrent par là. Hein? Le chemin étroit, Jésus, il dit, faut que tu rentres par la porte étroite, puis après ça, tu marches aussi dans le chemin qui est resserré. Jésus est la porte, puis Jésus est aussi le chemin. Fait que quand tu marches sans Jésus dans ta vie, tu n'as pas été chercher le pardon, tu es automatiquement dans une porte qui est bien large, puis ça mène où? À la perdition. On achève les versets qui font mal. Après ça, on va voir des versets qui vont faire du bien. Matthieu 25, 41, pour ceux qui doutent qu'il y a un étang de feu, on va aller le lire dans ça, que Jésus est en train de parler, puis il dit, « Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Tu sais, quand on le montre, on dit souvent l'expression « Oh, c'est l'enfer! » En réalité, là, le mot « enfer » n'existe pas. Non. On va vous dire la vraie affaire. Le mot « enfer », ça vient de l'Église catholique qui a inventé ça. Ils ont inventé ce mot-là qui vient d'un mot latin. Puis le mot enfer veut dire Sheol. Puis le vrai sens du mot grec, c'est le trou ce qu'on enterre, c'est le cimetière. Dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas le mot enfer. Puis les chrétiens ne devraient pas utiliser le mot enfer. Parce que ça n'existe pas. C'est l'Église catholique qui a inventé ça, comme qui ont inventé le purgatoire. C'est pas ça que la Bible a dit. La Bible parle de l'étang de feu, d'un lac de feu, d'un étang ardent de feu et de soufre, la géhenne de feu, un feu éternel, un lieu de perdition, un lieu où il y a des pleurs, des grincements de dents, un lieu de ténèbres où il y a des pour l'éternité. La Bible parle de la géhenne de feu, puis ça existait déjà dans le temps de Jésus. Saviez-vous c'était quoi? C'est que Jérusalem, la ville de Jérusalem, au sud de Jérusalem, il y avait un petit territoire qui s'appelait la Géhenne. C'était le dépotoir de la ville. Fait que les gens avaient le vidange dans le dépotoir, puis le feu brûlait tout le temps pour brûler les vidanges. Puis quand Jésus expliqua ça, le feu éternel, le dépotoir, puis là, il l'avait surnommé la Géhenne de feu, il faisait synonyme en voulant dire les gens vont être jetés comme dans le dépotoir de feu éternel. Ceux qui meurent dans leur péché, ils peuvent pas rentrer dans la présence de Dieu à cause de leur péché. Il y a juste un autre endroit, un dépotoir éternel, un lac de feu. C'est pas un enfer, ça n'existe pas l'enfer dans le Nouveau Testament. Puis on devrait arrêter ça, c'est les catholiques qui ont mis ça dans la tête. C'est pas une vérité biblique. Ça parle d'un étang ardent de feu et de soufre. Quand les gens disent « Ah, oh, c'est l'enfer », ils essayent de faire allusion que c'est bien dur dans leur vie. Mais crée-moi que l'état ardent de feu et de soufre est bien plus pire que ça. Ça se compare même pas. Il n'y a rien ce qu'on vit sur la terre qui est semblable à l'état de feu. Bon, on a peut-être des moments difficiles. Oui, je suis d'accord. Puis c'est un avant-goût des moments difficiles de l'éternité. Mais faut pas penser que c'est léger, que c'est insignifiant quand Jésus parle de ce jugement-là. C'est grave. Il faut que les gens fassent la paix avec Dieu parce qu'il n'y a pas de revenez-y. Oui.
Pour ceux qui se font incinérer.
Le corps, ça n'a pas d'importance si tu es incinéré ou enterré. De toute façon, tu retournes en poussière pareil au bout de X temps. C'est ton âme. Quand tu meurs, la Bible dit qu'on s'en va dans un lieu d'attente en attendant d'être ressuscité. Mais après la résurrection, là, les gens sont revenus en vie dans un corps qui est éternel. Il y en a qui vont avoir comme été pardonnés de leurs péchés. Les autres ressuscitent pour rester avec Dieu puis vivre la vie éternelle avec Dieu. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont morts dans leurs péchés.
Ils ne peuvent pas rentrer là, ils vont échouer dans un dépotoir éternel qui est l'étang de feu, le lac de feu, le feu éternel.
C'est un corps de ressusciter, un corps éternel. Tous vont ressusciter. Jésus a dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Il va y avoir une résurrection de tous
dans un nouveau corps.
Autant les chrétiens, ceux qui sont pardonnés, autant que ceux qui ne sont pas pardonnés. Sauf qu'on ne peut pas tous être dans le même endroit. Tu es un pardonné ou tu es mort dans tes péchés, il y a deux solutions. Puis ça nous dit que l'étang de feu, ça avait été préparé pour qui? C'était pour le diable et ses anges. C'était pas à l'origine pour jeter les humains. Si les humains se ramassent là, c'est parce que les humains ont suivi le diable et ses démons. Ils ont suivi le chemin de la rébellion. Ils marchent dans les traces de leur père qui est le diable, puis ils sont sous la puissance du malin. Faut que tu sortes de royaume, faut que tu changes de camp. C'est là qu'on va voir les versets qui parlent de ça. Là, on est rendu, Dieu a envoyé Jésus afin d'offrir le moyen de nous sauver. Jean 3, 16. La bonne nouvelle, là, l'Évangile, la bonne nouvelle commence là, là. Ça, c'était des mauvaises nouvelles avant. Là. Mais là, on tombe dans les bonnes nouvelles. Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Qu'est-ce que ça nous dit dans ce verset-là? Dieu a déjà payé ce que ça prenait comme coût. Il fallait que ça soit payé pour payer la dette des péchés. Dieu a déjà payé, il a déjà réglé cette dette-là. Comment? Il a envoyé son Fils mourir sur la croix. Afin que quiconque, n'importe qui veut croire en son Fils, ait la vie éternelle. Amen. Écrivez ça. C'est quoi le moyen? Mais le moyen, c'est que son Fils est envoyé pour qu'on croit en lui. Pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ça le message de la bonne nouvelle. Isaïe 53, 4 à 6. C'est un autre verset qui nous parle des souffrances de Jésus pour payer pour nos péchés. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix y est tombé sur lui, par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il fallait qu'on ait quelqu'un qui viennent payer à notre place. La Bible nous dit que Jésus n'est pas venu en forme humaine de son père Joseph puis de Marie. Ça dit que c'est le Saint-Esprit qui a touché Marie puis qui a mis Jésus au monde sans que ça soit Joseph qui fasse Jésus. Puis ça, c'est important parce que la Bible nous le dit après ça. Jésus le dit. Je suis venu d'en haut. Je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde, puis là, je retourne au Père. Ça prenait quelqu'un d'ailleurs pour venir régler la dette de nos péchés. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure à cause d'Adam et Ève. Tout le monde est dans la condamnation. Mais ça prenait quelqu'un qui n'était pas sous cette condamnation-là. Mais il venait du Saint-Esprit. Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a touché Marie, qui a mis Jésus au monde. Jésus, en partant, n'était pas sous la condamnation d'Adam et Ève. Puis il y a d'autres versets qui nous disent que Jésus, quand il a grandi, il discernait le bien et le mal, puis il s'est jamais dirigé vers le mal. Il a été tenté pourtant dans tout, mais il a toujours accompli la volonté de son Père. Il a toujours marché dans le chemin, puis là, il pouvait pas être condamné. Il était un innocent, pur, sans tache. Ça prenait une personne comme lui pour pouvoir prendre notre place. Parce qu'un coupable ne peut pas prendre la place d'un coupable. Si on est deux à faire un vol, puis je passe en cour pour un vol, puis mon chum passe en cour aussi pour le vol, il ne peut pas dire, « Hey, monsieur le juge, je vais prendre la place de mon chum à sa place, je vais prendre sa sentence à sa place. Non, parce que lui, il a la sienne, sa sentence, puis toi ici, tu as la tienne, parce que toi ici, tu es coupable. Un coupable ne peut pas prendre la place d'un autre coupable. Ça prend un innocent à prendre la place d'un coupable. Quelqu'un qui, lui, il devait pas payer pour le vol, puis que là, il dit, « Monsieur le juge, je suis un innocent, mais je vais accepter de prendre la sentence des autres. » Mais c'est ça que Jésus a fait. Il est venu du ciel, il est venu prendre notre sentence. Il a pris nos péchés sur lui, ça dit, il a été frappé de Dieu à notre place, il a été blessé pour nos péchés, puis il a été brisé pour nos iniquités. Jésus a reçu le châtiment qui nous donne la paix. Si j'ai la paix aujourd'hui là, avec Dieu, c'est à cause que l'innocent a payé à ma place, puis cet innocent-là, c'est Jésus. C'est quelque chose. Ah oui, il y avait une suite à ce verset-là. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça complète encore plus l'idée que Jésus a reçu sur lui le châtiment qui condamnait l'humanité en entier. Les péchés étaient dans les rêves comme nos péchés. C'est pour ça qu'il en est mort sur la croix. Il ne devait pas connaître la mort physique, Jésus, à cause qu'il était sans péché. C'est à cause de ça que la mort physique n'a pas pu le retenir dans la mort. Il est ressuscité 3 jours après la mort. La mort ne pouvait pas le retenir parce que Jésus, lui, n'a pas fait de péché. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Il s'est remontré à ses disciples pendant 40 jours comme quoi qu'il était vivant puis qu'il vit au siècle des siècles. C'est lui qui a les clés de la mort puis du séjour des morts. C'est lui qui est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est lui qui va juger l'humanité en entier à la fin des temps. Non, il n'y aurait pas eu besoin qu'on paye. Il n'y aurait pas de pouvoir. Le péché d'Adam et Ève a fait que l'humanité a tombé en entier, mais remarque, on aurait tout fait personnellement. Il n'y aurait peut-être pas désobéi là, mais peut-être que Caïn n'aurait pris du fruit défendu. Mais enfin, tout le monde, Dieu, ça avait tout vu ça d'avance, puis il avait tout préparé d'avance. C'est fort. Puis encore, pour nous dire dans la même pensée qu'on est... que Dieu a envoyé Jésus pour s'offrir pour notre moyen d'être sauvé. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y a un seul nom qui a été donné pour qu'on soit sauvé. C'est alias Jésus, mais son vrai nom, c'est Yeshua. C'est le nom que sa mère lui a donné. C'est le nom de Jésus parce qu'on l'utilise, mais en réalité, on devrait utiliser le mot Yeshua. C'est ça son vrai nom qui sauve. Si tu veux l'identifier comme personne, moi, si Pierre il a le surnom, on l'appelle Jules comme surnom, mais on le sait que c'est son surnom. Son vrai nom, c'est Pierre. Mais Jésus, c'est le même. Yeshua veut dire sauveur, sauvé, délivré. Puis Jésus, ça veut rien dire. C'est encore une interprétation. Jésus, savez-vous que c'est les catholiques qui nous ont encore introduit que le mot Jésus, ils ont mis ça dans toutes les Bibles? Parce que avant, dans les années 1500, avant ça, c'était son nom à lui. Si c'était écrit en grec, c'était marqué Yesus. Puis si c'était écrit en hébreu, c'était écrit Yeshua. Jésus, ce qui veut dire, parce que c'est lui qui sauvera son peuple. Il appelle le nom Yeshua parce que c'est lui qui sauvera. Le mot Yeshua veut dire sauveur. Il l'appellera Yeshua parce que c'est lui qui va sauver. Ça avait un sens, son nom. Puis quand ils ont écrit ça en grec, Yeshua, il n'y avait pas les voyelles dans le grec pour écrire le mot Yeshua, ça ne se disait pas en grec. Fait qu'ils ont traduit le mot sauveur en grec, c'était Yesus. Yesus, en grec, voulait dire sauveur. C'est pour ça qu'ils ont écrit ça de même. Ils gardaient le sens du nom dans la traduction. Mais après ça, les catholiques ont continué à utiliser la Bible grecque, la Bible latine, les Bibles qui ont eu le contrôle ces Bibles. Ils ont traduit un mot en français, en anglais, en espagnol, en latin, qui provient de Yesus. et non pas qui provient de Yeshua. Nous autres, en français, on serait capable d'écrire Yeshua. Mais catholiques, eux autres, ils ont décidé, on va l'appeler, on va prendre le mot Jesus, puis on va traduire ça par Jesus, Jésus, Jesus, en espagnol, c'est semblable à Jesus. Ils ont pris le mot grec, l'origine du mot grec. Ça a déformé le sens du mot, parce que ça veut, nous autres, le mot Jésus ne veut pas dire sauveur, ça ne veut rien dire Jésus. Non, originalement, c'était Yeshua. C'est ça qu'on devrait savoir, que c'est son vrai nom, c'est Yeshua, alias Jésus. Faut pas mettre trop l'accent sur le Jésus, c'est plus le Yeshua qui est le vrai sens. Bon. Là, on a vu que tout le monde sur la terre était pécheur. Tout le monde, à cause de leur péché, c'était la perdition, puis la séparation, puis l'ennemi de Dieu. On a vu que Jésus est envoyé pour prendre la place des coupables, puis qu'il est mort pour pardonner nos péchés, puis qu'on croit en lui, on a la vie éternelle. Maintenant, comment peut-on être sauvé? C'est important. Je le sais que je suis perdu, je le sais que je m'en vais dans la perdition, je le sais que Jésus est venu, mais je ne suis pas encore sauvé, là, même si je sais que Jésus est venu. Comment est-ce que la Bible me dit que je peux devenir moi-même un sauvé? Hein? Jean 3, il y a une seule manière pour être sauvé dans la Bible. Tout le monde faut qu'il passe par là. Jean 3, verset 5, Jésus répondit, Jésus est en train de parler à un chef religieux, puis que lui, ce chef religieux-là, il était supposé de savoir ces réponses-là, mais il ne savait pas. Jésus, il explique une vérité. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il y en a ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Là, je vais vous expliquer la plus grande vérité spirituelle du Nouveau Testament. Puis ça, vous devez la graver dans votre cœur. Il n'y a personne qui va rentrer au ciel sans avoir été né de nouveau. Personne ne va rentrer au ciel s'il n'a pas été né de l'Esprit. La Bible nous parle d'une nouvelle naissance, un nouveau départ. Là, Nicodème, il se posait la question, mais comment je vais naître de nouveau? Je vais-tu rentrer dans le ventre de ma mère puis renaître? Jésus a dit, ce qui est né de la chair, c'est chair. Mais ce qui est né de l'esprit, est esprit. Quand tu nais de nouveau, tu es né de l'esprit. C'est qu'à quelque part dans ta vie, pendant qu'on est venu au monde, on a grandi, on était à sa condamnation d'Adam et Ève, on a vécu dans le péché toute notre vie dans la rébellion parce qu'on ne savait pas c'est à quoi le plan. Et à un moment donné, on vient en connaissance que Jésus peut nous pardonner nos péchés. Puis il nous a dit dans sa parole qu'il fallait que tu naisses de nouveau. Ça veut dire, je suis né de la chair, je suis chair, je suis un homme humain, je suis un homme humain, mais il faut que je devienne quelque chose d'autre, puis il faut que je naisse de nouveau. Il faut que je naisse d'une vie spirituelle. Faut que je naisse dans une vie qui vient d'en haut, qui est d'être né de l'Esprit. Ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné dans ma vie, que le Saint-Esprit de Dieu entre en moi. Qui va faire que je reçoive une nouvelle naissance, un nouveau départ. Je recommence à zéro par un contact qui va s'établir entre moi et Dieu. Ce contact-là, je ne l'avais pas avant. Il commence au moment précis que tu nais de nouveau. Il n'y a personne qui va rentrer dans le royaume de Dieu sans être né de nouveau. C'est bien clair. Il dit au verset 6, au verset 5, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Oui. C'est là. L'eau, ça symbolise la purification. La purification, puis de recevoir l'Esprit. C'est là qu'on va... On le sait, là, que si je veux être sauvé, si je veux rentrer dans la vie éternelle, si je veux être sauvé, il faut que je naisse de nouveau. Là, maintenant, quoi, vous savez qu'il faut naître de nouveau. Comment je peux venir à recevoir ça? Je sais que Jésus est mort. Je sais qu'il faut que je reçoive le Saint-Esprit. Comment que la Bible me dit que je peux le recevoir? On va le voir dans les autres versets. Acte 2, 38. Avez-vous compris, là, écrit la bonne réponse? Comment je peux... Pouvons-nous être sauvés? Il faut naître de nouveau. Il faut naître de l'Esprit. Comment est-ce qu'on reçoit ça? Comment ça se passe? Acte 2, 38. Pierre est en train d'inviter du monde à être sauvé dans sa prédication. Il y avait 3000 personnes devant lui. Pierre leur dit, « Repentez-vous! » Oups! Je vais lire la verset, je vous expliquerai ce que ça veut dire. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Naître d'eau et d'esprit. Il faut que tu passes par le lavage, la purification, le pardon. Après ça, tu reçois l'Esprit. C'est ça que ça nous dit dans les textes. Fait que, faut que tu passes pour, avant de recevoir l'Esprit, faut que tu passes par être lavé de tes péchés. Comme j'ai dit tantôt, si tu demeures dans tes péchés, ça t'empêche d'être en contact. Faut que, premièrement, qu'il y ait un lavage de tes péchés qui soit fait. Après ça, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. C'est quoi la méthode qu'on a expliquée pour être pardonné de nos péchés? Se repentir et d'être baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon aux péchés. Ce qu'il faut comprendre dans ces versets-là, c'est qu'il faut que tu passes par la foi en Jésus, puis il faut que tu te repentes. Qu'est-ce que ça veut dire, se repentir? Autant qu'avant, je vivais dans ma voie de rébellion contre Dieu, je marchais dans des péchés, je marchais à dire des paroles qui me souillaient, j'étais sous l'emprise du chemin du diable. Si je me repens, là, j'haïs ce chemin-là, je veux plus suivre ce chemin-là, je me tourne de bord. Là, je veux suivre Dieu. C'est ça, le mot repentir veut dire changer de direction. Faut que tu veuilles changer de vie. Faut que tu veuilles changer de direction. Si tu veux pas changer de vie, si tu dis, je le crois que Jésus est venu, mais je veux continuer à vivre ma vie de débauche, ma vie de péché, ma vie de rébellion. Tu t'es pas repenti, tu seras pas pardonné. Tu peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu t'es pas détourné, premièrement, en te repentant. Ben, c'est ça qu'elle nous dit. Repentez-vous, engagez-vous à suivre Jésus. Premier pas, faites-vous baptiser d'eau. Suivez le Seigneur. Quand tu t'engages, là, il dit, tu vas passer par le pardon. C'est ça que ça dit. Repentez-vous donc, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Il faut que tu passes par le pardon. Après ça, tu reçois le Saint-Esprit. Là, la nouvelle naissance va se vivre. Le Saint-Esprit va rentrer en toi, pas parce que tu es meilleur que les autres. Parce que tu as demandé pardon, tu t'es détourné de ta vie, tu le crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, puis tu t'engages à le suivre et à le servir. Tu fais un premier pas. Le baptême, c'était un des premiers pas d'obéissance, mais c'est pas le baptême qui te sauve. C'est ta foi qui te sauve. Ta foi que tu as cru que Jésus t'a mort pour pardonner tes péchés, tu t'engages à le suivre. Il te pardonne, tu passes par le lavage. T'es lavé, après ça, le Saint-Esprit rentre en toi. Il ne pouvait pas rentrer si le péché t'a pas réglé dans ta vie. Faut que tu passes par le pardon en premier. Là, il n'y a plus rien qui t'empêche à ce que l'Esprit rentre. Il n'y a pas d'autre chemin que ça. C'est pas parce que tu vas mettre, mettons qu'on est dans notre vie, on vit au monde, on est dans la vie de rébellion, je suis dans le péché d'Adam et Ève, je suis dans mes péchés, là je dis, je vais suivre une belle religion, puis je vais gagner mon ciel avec ça. Non, qui va régler la dette de vos péchés? Ça prenait un innocent qui paye vos péchés, puis il n'y en a rien qu'un qui a payé, c'est Jésus Yeshua. C'est Yeshua qui a payé pour nos péchés. C'est pas ma religion qui va me pardonner. Dieu, si ça aurait été le cas, il aurait dit, suivez telle religion, vous allez être sauvés. Ça marchait pas de même, ça prenait un innocent qui paye pour les coupables. Puis cet innocent-là venait pas d'ici, il venait d'en haut. C'est Jésus qui est venu pour payer pour les coupables. Il y avait juste lui qui pouvait le faire. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Ça, c'est le nom de Jésus, Yeshua. On continue. Avez-vous écrit votre réponse? Oui. Repentance. Et le prochain, on le voit, une conversion, qui est le même sens, le acte 3:19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ça c'est un autre moment dans les actes où ce que les apôtres ont continué à prêcher au monde. Puis ils réinvitaient le monde encore. Repentez-vous, convertissez-vous, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Tu ne peux pas recevoir la gloire de Dieu dans ta vie si tu es encore dans tes péchés et tu veux persévérer dans un chemin de rébellion. Il faut qu'à quelque part, tu te détournes de ta vie. Tu dis, moi, je veux plus suivre ma vie. Je suis perdu. Je regrette ça. Là, je veux plus suivre ça. Moi, je veux suivre Jésus. Tu changes de vie. Là, tu te convertis, c'est ça que ça dit. Repentez-vous et convertissez-vous. Ça veut dire que tu commences à t'engager à suivre Jésus dans ta vie. Tu te convertis à pratiquer ce que Jésus nous dit dans sa parole. C'est là que ton engagement fait que tu reçois le pardon, puis le Saint-Esprit, puis les temps de rafraîchissement. Tout va découler une fois que tu as changé, tu as pris position, puis tu t'engages à le suivre. Parce qu'il y en a qui restent dans la porte. Ils savent que Jésus est venu pour sauver, fait qu'ils veulent un Jésus qui les sauve, mais ils ne veulent pas le Jésus qui est Seigneur, qui régnera sur leur vie, puis commencer à obéir à ce Seigneur-là. Fait qu'ils veulent être pardonnés, mais ils ne veulent pas suivre Jésus. Fait qu'ils ne lisent pas la Bible, ils ne vont pas dans des réunions, ils ne demandent pas à Dieu de changer leur vie. Ils veulent rester dans ce qu'ils vivent, mais ils voudraient être pardonnés, mais ils veulent rester dans ce qu'ils vivent. Ils ne sont pas réellement repentis. Parce que quand tu te repens, tu regrettes tout ça, puis tu t'en détournes, puis tu te mets à suivre ça. C'est ça la repentance, puis la conversion, c'est que tu t'adaptes à ta vie, à ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Voyez-vous, tout, comment naître de nouveau, il faut que tu te repentes, puis tu te convertis. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas naître de nouveau. Qu'est-ce qu'un cours qui est enseigné au niveau du pardon? Comment ça se reçoit? Si tu reviens en cours à croire que c'est Jésus qui a tout payé. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'est-ce qui arrive? Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Dans ce verset-là, il dit, c'est en le confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en le confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand quelqu'un croit dans son cœur, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu te mettes à confesser que tu le crois. Tu prends position. Tu prends position publiquement. Autant que, moi je le sais, j'ai pris position. Ma vie était par là. Je me suis détourné. Je me suis converti. Je le confesse. Je le crois. J'applique la parole de Dieu dans ma vie. Ma vie est un témoignage de ce que je crois. Pas juste que je crois dans mon cœur puis que rien ne change. Non. Je commence à confesser, puis le mot confesser, c'est si tu confesses de ta bouche, puis il est au pluriel. C'est une affaire de confession de toute ta vie que tu vas confesser ta foi. Si tu es gêné, si tu es paresseux, ça ne te tente pas, si tu ne veux pas prendre position publiquement, puis être vu par les autres. Hein, tu sais, des fois, on est gêné de parler de Jésus. Jésus a dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai aussi honte de lui. Tu peux pas dire que tu crois en Jésus, mais vouloir garder ça juste dans ta tête, dans ton cœur. Tu prends position, tu prends position. Pas juste devant Dieu, devant les hommes. Moi, je vous le dis, je suis chrétien, je crois en Jésus, que Dieu l'a ressuscité des morts. puis je le confesse que c'est mon sauveur, puis je le crois que sans lui, il n'y a pas de salut, puis c'est pour ça que je vous l'enseigne, pour que vous preniez la même assurance, vous êtes capable de le dire aux autres. C'est le seul moyen, il n'y a pas d'autre nom, puis il n'y a pas d'autre chemin, même si tu as la meilleure religion sur la terre, ça ne te sauvera pas de tes péchés. Tu vas mourir dans tes péchés, puis tu vas être séparé de Dieu. Faut que tu passes par la foi en Jésus, le confesser, te détourner de ta vie, puis de suivre. Puis si tu fais ce pas-là, tu ne seras pas confus. C'est ça que ça nous dit. Quels sont les avantages d'être sauvé? On achète. Parce qu'une fois que tu as fait ce pas-là, de t'engager à suivre Jésus, tu as une nouvelle vie qui commence. Tu as une nouvelle position devant Dieu. Quand Dieu te regarde, « Ah, c'est mon enfant. » Il ne nous voit plus avec les mêmes yeux. Il s'est passé quelque chose. 1 Jean 2,12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Première chose qu'on a en nouvelle position, c'est quoi? Non. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Qu'est-ce qu'on a eu? Nos péchés, on a reçu le pardon des péchés. Première affaire qu'on a reçue. Tout à l'heure, on disait qu'on persiste dans le péché, puis on meurt dans nos péchés. Là, on parle d'être pardonné de nos péchés. Ça se reçoit quand? Pardonné à cause de son nom, à cause de votre engagement. Luc 10, 20. Jésus est en train de parler avec ses disciples. Il leur a dit, « Cependant, ne vous réjouissez-vous pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Qu'est-ce que c'est, cette nouvelle position-là? Qu'est-ce que ça veut dire que notre nom est inscrit dans les cieux? Le livre de vie, il y a un livre de vie. Je sais pas, vous avez lu dans Apocalypse au chapitre 20, la Bible parle qu'une résurrection, tous ceux qui ont vécu sur la terre vont tous ressusciter, vont comparaître devant le trône blanc. Il y a des livres qui vont être ouverts, puis les gens vont être jugés. Ça nous dit, tous ceux qui n'étaient pas inscrits dans le livre de vie étaient jetés dans l'étang de feu. Il faut être sûr que notre nom est inscrit. Si notre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, les gens n'y rentreront pas dans la vie éternelle. Ils vont être jetés dans les temps de feu. Puis commencent les disciples. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit. Quand tu deviens disciple de Jésus, un suiveur de Jésus, parce que tu t'es converti de ta vie, tu as cru qu'est-ce que Jésus est, qu'est-ce qu'il a fait? T'es pardonné, ton nom s'inscrit. T'es un inscrit. Réjouis-toi de ce que ton nom est inscrit. Gloire à Dieu. Jean 5, 24. C'est ce qu'on apprend dans Jean 5, 24. C'est encore un avantage. Jésus est en train de parler. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quel beau verset! Quelle belle promesse, une belle parole de Jésus! Si tu crois en Dieu le Père, puis que tu te mets à écouter son Fils, il dit, c'est ça que ça dit, hein, celui qui écoute ma parole. Si tu crois que l'œuvre de Dieu est offerte pour être pardonnée, puis tu l'acceptes, puis tu te mets à le suivre, 3 conséquences. Tu vas avoir la vie éternelle, première conséquence. Tu n'iras pas en jugement, pour être jugé, parce que la Bible a dit que c'est pas tout le monde qui va être jugé. C'est juste ceux qui sont perdus. Parce que les autres sont pardonnés. T'as pas de jugement pour impardonner. C'est pardonné. Le jugement est pour les non-pardonnés. Fait que le Jésus, c'est pour ça qu'il a dit, celui qui croit en moi, là, puis qui suit ma parole, puis qui croit en mon Père, il vient point en jugement. Mais t'es passé de la mort à la vie. C'est comme on vous disait tantôt, tout le monde sont morts en Adam. Tous meurent en Adam. Mais quand tu crois en Jésus, puis tu le suis, t'es passé de la mort à la vie. T'es rendu un vivant. Puis tu vis au siècle des siècles. La Bible a dit qu'on ne goûtera plus. On va avoir une mort physique, probablement, où il y en a qui ne goûteront pas la mort physique. Mais on n'a pas de mort éternelle. On va vivre éternellement avec Jésus. Gloire à Dieu. Colossiens 3, versets 3 à 4. Ça fait drôle à lire après avoir lu ce verset-là qu'on vient de lire. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Quand tu viens à Jésus, là, t'es un mort. Comme on a dit, on est à mort à cause de nos péchés, on est à mort à cause d'Adam et Ève. Hein? On vient à Jésus, autant qu'il te ressuscite et qu'il te donne la vie, autant que tu meurs, ta vie, ton ancien Daniel, là, il est mort. Là, c'est une nouveauté de vie, c'est un nouveau Daniel, une nouvelle créature. T'es un mort dans ta vie là, de pécheur perdu, est morte. Là, t'as une nouvelle vie, et quand Jésus va revenir, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On avait vu dans un autre verset qui disait, si t'es dans le péché, t'es privé de la gloire de Dieu, puis celle-là, ça nous dit le contraire. Si t'es sauvé, tu vas paraître avec lui dans sa gloire. À son retour. Quand Jésus va revenir sur un nuage, la Bible a dit qu'il va y avoir une résurrection. Tout le monde, les morts croyants, vont ressusciter avec Jésus, et nous qui étions vivants, qui l'attendons pour sa venue, on va être enlevés avec eux, sans connaître la mort physique, on se retrouve avec lui pour vivre une vie sans fin avec lui. On va paraître avec lui dans la gloire. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons donc la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Deux conséquences quand tu es sauvé. Tu es justifié à cause de ta foi, tu es rendu juste. Dieu te voit comme un juste. La justice de Jésus est sur toi. Puis tu as la paix avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir la paix avec Dieu? On avait vu que quand on était dans le péché, on était étrangers et rebelles, et la colère de Dieu était sur nous. Fait qu'on n'était pas en paix, là. On était loin, on était des étrangers, des rebelles, puis de la colère de Dieu qui était sur nous. Mais quand tu viens à Jésus, tu es justifié, tu es déclaré pour être un juste, puis tu reçois sa paix. Dieu refait la paix entre toi et lui. C'est le seul moyen pour obtenir cette paix-là. C'est de croire en Jésus par la foi, puis de s'engager à le suivre. 1 Pierre 1, 3, 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi qu'il nous a régénérés? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Qu'est-ce qu'on a comme avantage d'avoir été sauvé? On a été régénéré, puis cette régénération-là nous donne quoi? À cause qu'on a reçu d'être régénéré, on a un héritage. On a un héritage. La récompense, là, l'avantage d'être sauvé, c'est que tu as un héritage. qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se souiller, qui ne peut pas flétrir, qui n'aura pas de... Comme moi, ma maison, là, si je dis que ma maison est un héritage pour mes enfants, c'est une maison qui se détériore. Elle se détruit avec le temps. Tandis que l'héritage que Dieu nous donne, qui est réservé dans les cieux, elle ne peut pas se corrompre, elle ne peut pas se souiller, elle ne peut pas flétrir. C'est de quelque chose d'héritage, de permanent. C'est quelque chose de permanent. C'est quelque chose qui va durer éternellement, cette récompense-là. C'est quelque chose que Dieu nous a donné gratuitement. Merci, Seigneur. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Éphésiens 1:4. Tel avantage ça nous donne d'être sauvés. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Qu'est-ce que ça me donne comme avantage quand je suis sauvé? Quand tu es devenu un élu de Dieu, là, il y a un but. L'avantage, c'est quoi? Tu deviens saint et irrépréhensible. Quand tu confesses tes fautes puis tu demandes pardon au Seigneur, il te pardonne instantanément. Faut que tu le crois que Dieu te pardonne. Sinon, on va continuer à penser qu'on est souillé toute notre vie. Non, il nous voit comme un saint. Il nous voit comme quelqu'un d'irrépréhensible. Irrépréhensible, c'est-à-dire sans reproche. Si tu confesses tes péchés puis tu marches à jour avec le Seigneur, tu es un saint puis tu marches d'une manière sans reproche. C'est quelque chose qui te donne, qui décide de te donner sans compter tes mérites. C'est pas parce qu'on est meilleur chrétien quand on vieillit dans le Seigneur, on ne devient pas meilleur chrétien. Pour être un chrétien, dans le meilleur des termes d'être chrétien, tu marches à jour, tu crois qu'il te pardonne, puis tu confesses tes fautes à mesure, t'es lavé de tes péchés, t'es un saint, t'es un irrépréhensible. L'important, c'est qu'il faut continuer à se garder à jour là-dedans, puis confesser nos péchés. Parce que ça nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. La purification se maintient à jour quand on les confesse. Dernier verset pour l'étude de ce matin, j'essaie que ce ne soit pas trop long. Colossiens 1:12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption puis la rémission des péchés. Qu'est-ce que j'ai eu comme avantage d'être sauvé? Qu'est-ce que j'ai eu comme avantage d'être sauvé dans ce verset-là? Premièrement, délivré de la puissance des ténèbres. Qu'est-ce que j'avais dit au début? Le monde entier est sous la puissance du malin à cause d'Adam. Mais quand tu viens à Jésus, il délivre de la puissance des ténèbres. Le diable n'a plus de droit d'agir sur ta vie. Tu es délivré de son emprise quand tu viens à Jésus. Ça, ça en est un super avantage. Il dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il change de camp. Tu étais dans le royaume des ténèbres avant d'être chrétien, avant d'être sauvé. Là, maintenant, tu es dans le royaume de la lumière, le royaume de son Fils, du Fils de son amour. Qu'est-ce que t'as deux autres choses que tu as eues dans ce verset-là? On a reçu la rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce quelqu'un qui sait que ça veut dire rédemption? Le mot rédemption veut dire rachat. Fallait que quelqu'un paye pour te racheter. C'est comme si notre vie était pawnée au pawn shop. Mais c'est le diable qui avait l'emprise sur notre vie. Fallait que quelqu'un paye le prix que ça coûte pour te sortir du pawn shop, de la main du diable. Tu as eu un rachat. C'est Jésus qui a payé de sa vie. il t'a racheté à cause de son prix qu'il a payé. Le diable, on y doit plus rien. Notre dette de nos péchés qui nous gardait captifs dans l'emprise du diable, on y doit plus rien, la dette est payée, puis on est sorti de ce royaume-là, puis on est sorti de son emprise, de l'emprise de sa puissance ténébreuse qui nous gardait dans le péché, puis on est transporté dans son royaume. Puis on a reçu aussi la rémission des péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est dans le sens qu'il nous a remis notre dette. On avait une dette aussi envers Dieu à cause de nos péchés, puis Dieu a dit, laisse faire, oublie la dette que tu as envers moi. Tu ne me dois plus rien, parce que Jésus a tout payé pour ta dette. Notre dette a été remise, frères et sœurs, c'est quelque chose, ça. On a reçu la rémission. Nos dettes, le salaire du péché, c'était quoi? C'était à la mort. Il nous a remis notre dette. On n'a plus besoin de mourir. À condition qu'on passe la vraie affaire. C'est quoi la vraie affaire pour l'obtenir? Il faut naître de nouveau. C'est ça qu'il faut dire à tout le monde. Il faut que tu naisses de nouveau. Même si le gars il va dans une religion qui a mis sa foi en quelque chose, t'es-tu né de nouveau? Il va dire, c'est quoi? Si c'est pas c'est quoi, il l'est pas, c'est sûr. Non, mais si le gars, il dit, moi, je connais quelqu'un, là, moi, vous expliquer une affaire. Je connais quelqu'un qui va dans une église bien renommée. Ça fait 3 ans qu'il est chrétien. Puis nous autres, on l'a questionné parce qu'il venait à la radio pour venir s'impliquer à le ministère de la radio. On passe tout le monde savoir s'ils sont vraiment nés de nouveau. Le gars, il nous dit, oui, j'ai reçu le Père par l'imposition des mains d'un curé. Parce que lui, quand il s'est fait imposer les mains par un curé, il a senti une chaleur dans son corps. Là, il pense qu'il a reçu le Père. On lui a demandé, « T'as-tu cru, t'as-tu confessé que Jésus était le chemin pour que tu sois au Père? » Non, non, il m'a juste imposé les mains, j'ai ressenti une chaleur, j'ai reçu le Père. Le gars, je pensais, sauvé, parce qu'il a senti une chaleur. Puis il pense que son buzz, son feeling, c'est ça qui est la preuve qu'il est sauvé. Ça marche pas de même. La Bible a dit, tu passes premièrement par le pardon. Faut que tu passes par Jésus. Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Tu peux pas dire que tu as reçu le Père sans passer par Jésus. Et pourquoi faut que je passe par Jésus? Fait qu'avant de recevoir le Père, faut que je sois pardonné de mes péchés. C'est Jésus qui te pardonne de tes péchés. Faut que tu passes par Jésus en premier, en confessant de ta bouche que tu crois que c'est Jésus qui est mort, que Dieu l'a ressuscité des morts pour ton pardon. Tu le crois, tu le confesses, tu taillis ta vie, tu t'en détournes, tu te repens, tu te convertis envers Jésus pour le suivre, Jésus. Donc, faut que tu passes vraiment dans la porte de Jésus, puis t'es engagé dans le chemin de Jésus, c'est là que tu revas au Père. C'est là que tu peux recevoir le Père, le Saint-Esprit. Parce que Dieu le Père et le Saint-Esprit, c'est la même affaire. C'est Dieu. Tu reçois Dieu, tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Dieu le Père. Quand tu passes par Jésus, tu peux pas, nul ne vient au Père que par moi. Tu peux pas recevoir le Père en passant par un autre chemin que par Jésus. Fait que son soi-disant salut n'était pas biblique. Il marchait pas selon la parole de Dieu. Il n'est pas réellement né de nouveau. On lui posait d'autres questions sur des choses de base de la foi, puis il ne comprenait rien. Mais la première chose pour que tu arrives à vraiment être conduit par l'Esprit, il faut que tu le reçoives, l'Esprit. Puis un moment que tu le reçois, c'est au moment où tu te convertis. Puis c'est la Bible a dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est sûr que si tu crois en lui, puis tu t'engages à le suivre, qu'il va te pardonner, puis qu'il va te le donner. Dieu n'est pas un menteur. Ça peut arriver, je mets une pièce dans une machine, puis je paye sur le piton, puis le sac de chips tombe pas. Ça peut arriver. Là, tu brosses la machine pour être... Tu serais supposé que si tu mets ta pièce, ça tombe. Mais ça arrive que ça tombe pas. Mais avec Dieu, ça arrive pas que ça marche pas. Celui qui se repent, puis qui se convertit, il va naître de nouveau. C'est clair, il te pardonne à partir du moment que tu crois, puis que tu le confesses, puis que tu t'engages. Il te pardonne, il te donne le Saint-Esprit pour te faire vivre cette nouvelle vie que tu veux. Puis merci Seigneur, parce que le cadeau, il est là. Tout le salut, tu vas être sauvé si tu passes par la nouvelle naissance. Puis si tu veux naître de nouveau, il faut que tu passes par Jésus pour recevoir l'Esprit-Saint. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, Jésus, on peut faire une prière ensemble. Je parle à ceux aussi qui sont sur Internet. Puis on va demander, on va passer par le vrai chemin. Répétez après moi cette prière. Père Seigneur, je comprends maintenant ma position devant toi. Je sais que je suis un pécheur. Je suis perdu. Mais je crois, Seigneur, que tu as envoyé Jésus sur la terre. Venez mourir sur la croix pour pardonner mes péchés. Maintenant, Seigneur, je me repens de ma vie. Je veux changer de vie. Je te demande pardon. Et j'accepte Jésus comme étant mon sauveur et mon Seigneur. Maintenant, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit et conduis-moi dans cette nouvelle vie. Merci pour ton pardon. Merci pour ton salut. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière-là, puis vous le croyez sincèrement, il y en a qui fait longtemps qu'ils l'ont faite, puis ils se maintiennent dans cette ambiance-là, puis c'est correct, on va le confesser toute notre vie qu'on croit ça.